Permettez-moi de vous demander, quel est votre but dans la vie? Quel est votre but dans la vie? Peut-être c'est de mener une petite vie simple et heureuse, d'avoir une belle maison, un beau jardin. Ou peut-être c'est la réussite dans un domaine ou un autre, la réussite au travail, dans les études, faire une belle carrière. Ou faire de beaux voyages à travers le monde. Il y a tellement à voir dans ce monde. Juste pour vous amuser, profiter de la vie. Peut-être vous êtes déjà retraité et vous appréciez le fait de voir la famille grandir, de voir les enfants, les petits-enfants grandir, s'épanouir. C'est ça votre but dans la vie. Et ce matin, nous allons faire un petit bilan de santé spirituelle. Parce que parfois, nous avons besoin que la parole de Dieu rectifie le tir chez nous. Un peu comme les caddies à Colruyt, qui vont jamais où on veut qu'ils aillent. Il faut les ramener, pour aller là où on veut, vers les pattes, je ne sais pas quoi. La parole de Dieu doit rectifier le tir chez nous pour ramener notre but pour notre vie, que ça soit en adéquation avec ce que Dieu veut pour notre vie. Ça, c'est notre intention ce matin. Parce que même si nous sommes chrétiens ici ce matin, parfois nous vivons tout comme le monde qui nous entoure et nous oublions Jésus. Nous allons prier ensemble pour l'aide de Dieu, pour qu'il nous donne à comprendre sa parole. Et puis nous allons nous lancer, prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour ta parole, nous te louons parce que tu te révèles clairement à travers elle. Et nous te prions que nous puissions être des personnes qui écoutent ta voix ce matin, que tu puisses rectifier le tir chez nous si nous en avons besoin en ce qui concerne notre but dans la vie. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bon, nous verrons la première lettre aux Corinthiens ce matin, si vous avez les Bibles, la première lettre aux Corinthiens. Et nous commençons au chapitre 10, verset 31 à 33. Ici, Paul termine une section dans la lettre. C'est un peu la conclusion de son argument. Et ces versets vont nous dire ce qui devrait être notre but dans la vie en tant que chrétien. Ce qui devrait être le but dans notre vie. Donc, commençons à partir du verset 31. Chapitre 10, 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça le but de la vie d'un chrétien. Donner gloire à Dieu en tout ce qu'on fait. C'est la gloire, la réputation, la renommée de Dieu qui devrait être notre préoccupation principale dans la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Mais les versets suivants nous disent, verset 32, ne soyons scandaleux ni aux Grecs ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc ne dressez pas d'obstacles inutiles devant ces personnes, que ce soit des Juifs, des non-Juifs ou les chrétiens. Verset 33, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, qu'est-ce que Paul cherche? Non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Paul dit, faites comme moi. Le but de Paul ici, c'est de rechercher la gloire de Dieu, le salut des non-chrétiens en toutes choses. La gloire de Dieu en cherchant le salut de tous. C'est ça le but de la vie du chrétien. Et au cas où on pense que cela s'adresse à Paul et lui, il était un apôtre et nous, on l'est pas, ça nous affecte pas. Voyons le verset suivant. 11, verset 1, le verset suivant. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Donc nous sommes censés imiter Christ, imiter Paul, parce que lui-même, il est en train d'imiter Jésus-Christ. J'étais très content de chanter Roi serviteur ce matin parce que c'est ça que Jésus a fait. Il a renoncé à la gloire céleste pour venir sur cette terre, pour se sacrifier pour les perdus, pour sauver les perdus. Et c'est exactement ce que Paul fait dans sa vie. Il se sacrifie en tout domaine en cherchant le salut des autres. Et nous sommes appelés à l'imiter Paul. Et nous allons voir ce que Paul nous dit plus tôt dans la lettre, au chapitre 9, concernant qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Donc c'est au chapitre 9, à partir du verset 19. Chapitre 9, à partir du verset 19. Lisons ensemble. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Alors, la première chose que nous voyons ce matin, c'est un appel à poursuivre la gloire de Dieu en nous sacrifiant pour les perdus. Poursuivons la gloire de Dieu en nous sacrifiant pour les perdus. Ça, c'est dans les versets 19 à 23. Si on peut avoir le 19, ça serait super. Dans ce verset, Paul nous donne un résumé de son ministère de missionnaire. Et il sert d'exemple pour nous. Et nous voyons ce que Paul fait dans ces versets, n'est-ce pas? Au verset 19, bien qu'il soit libre à l'égard de tous, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est rendu le serviteur de tous. Ce mot pourrait être traduit par esclave. Il était tout à fait libre, il pouvait vivre comme il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec sa vie. Mais ce qu'il a fait, c'est de se faire l'esclave de tous. Les esclaves à l'époque de Paul n'avaient pas de droits, n'avaient pas de liberté. Ils étaient totalement au service de leur maître. Et c'est ça que Paul fait ici. Il se met au service des autres. Il se fait esclave des autres. Et Paul marche sur les traces de Jésus ici. Jésus s'est fait esclave, n'est-ce pas, pour nous, en devenant homme, en mourant à la croix, nous venons de célébrer, en mourant pour payer pour les péchés de l'humanité. Jésus s'est rendu esclave des hommes, Paul également. Et dans la deuxième moitié du verset 22, Paul résume ce ministère. Il dit « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Il est en train de décrire son mode de fonctionnement dans la vie. Il avait un comportement changeable qui était adapté en fonction de celui ou ceux qui l'entouraient. Il se comportait différemment en fonction de qui il voulait gagner pour Christ. Et le but de son comportement ici, est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux gens ou de se faire plus d'amis? Non. Son but, c'est le salut des non-chrétiens. Nous voyons cela avec le nombre de fois que le terme « gagner » est utilisé dans ce passage, n'est-ce pas? Verset 19, « afin de gagner le plus grand nombre ». Verset 20, « afin de gagner les Juifs ». Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Afin de gagner, verset 21, ceux qui sont sans loi. Verset 22, afin de gagner les faibles. Et donc, gagner. Paul veut gagner les gens. Ça, c'est son but. Mais qu'est-ce que ça veut dire gagner? C'est pas comme un match de foot où nous, on est les gagnants et les autres les perdants. Mais c'est de gagner quelqu'un à Christ. À la fin du verset 22, Paul explique ce que ça veut dire. Il dit, afin de toute manière de sauver quelques-uns. Gagner quelqu'un, ça veut dire que l'autre soit sauvé par le message de Jésus-Christ. Parce que vous voyez, le message du christianisme, c'est un message de salut, une bonne nouvelle de salut. Peut-être vous êtes ici ce matin et le christianisme est nouveau pour vous. Vous pensez que le christianisme, c'est plutôt l'histoire de faire le ménage dans sa vie avant d'être acceptable devant Dieu, ou c'est d'aller plus à l'église, ou de prier plus. C'est pas du tout ça. Paul dit que c'est un message de salut, parce que auparavant on était en danger. Les humains sont en danger par nature. Et Paul était bien conscient que les non-chrétiens se trouvaient dans une situation dangereuse. Ils savaient que sans Jésus, ils feront face au jugement effroyable de Dieu. Et c'est seulement lorsque nous sommes persuadés du fait que les non-chrétiens sont dans une situation très dangereuse, que nous serons persuadés à nous plier en quatre pour chercher leur salut. Il me semble que c'est la saison des maladies pour l'instant, n'est-ce pas? J'imagine qu'on a tous eu un petit rhume ces derniers temps, un coup de fatigue. C'est un semestre lent, usant, fatigant. Lorsqu'on est malade, c'est la gravité de la maladie qui va déterminer notre réaction à la maladie, n'est-ce pas? Donc si on tousse un petit peu, on va pas aller direct aux urgences, ça sera ridicule. Mais si nous n'arrivons plus à respirer, à ce moment-là, ça devient grave. Il faut aller se faire soigner de toute urgence. Ça dépend de la gravité de la maladie, déterminera la réaction. C'est la même chose lorsque nous pensons à ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Si nous pensons que c'est, oui, c'est un peu dommage qu'ils ne vont pas à l'église, mais ce n'est pas si grave que ça, pour finir, qu'ils ne sont pas chrétiens. Si nous pensons comme ça, nous ne serons pas pressés pour aller parler avec eux de Jésus. J'ai parlé avec un homme récemment qui me disait que l'essentiel pour lui, c'était que sa fille se sentait bien dans sa peau. Et on comprend ça, c'est facile de penser ainsi. Oui, peut-être nos enfants ne sont pas chrétiens, mais l'important, c'est qu'ils fassent leur choix dans la vie, qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux. Je sais que c'est un sujet pénible et délicat pour beaucoup ici. Mais à la lumière de la Bible, cette attitude n'est pas possible. Plutôt dans 1 Corinthiens, Paul parle des non-chrétiens comme ceux qui vont à leur perte. La Bible est claire, ce qui attend les non-chrétiens, c'est un jugement effroyable pour toute l'éternité. Si nous sommes persuadés de la réalité de l'enfer, nous aurons comme Paul le désir de voir tout le monde sauvé. Le salut des perdus est la priorité pour Paul ici. Il fait tout ce qu'il peut pour sauver les autres. Paul se plie en quatre afin que les non-chrétiens puissent entendre la bonne nouvelle du salut. Mais qu'est-ce que cela a voulu dire dans la pratique, dans la vie de Paul? Nous voyons cela au verset 20 à 22. Il adapte son comportement de manière à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle inutile au message de l'Évangile. Au verset 20, « Aux Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. » Donc, lorsque Paul passait du temps avec des Juifs, il ne mangeait pas du porc. Lorsqu'il était au Quick avec les Juifs, il ne commandait pas le hamburger. Il ne voulait pas adresser des obstacles inutiles aux Juifs pour que l'Évangile puisse passer. Verset 20, « Avec ceux qui sont sous la loi, j'étais comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas sous la loi. » Il parle des Juifs ou des autres qui voulaient se soumettre à la loi de Dieu. Et lorsque Paul était avec ces personnes, lui, il faisait la même chose. Il faisait des purifications rituelles, vous pouvez lire ça dans le livre des Actes, pour que le message de l'Évangile passe avec ces personnes-là. Il n'était pas contraint par la loi de Moïse. Les chrétiens ne le sont pas. Mais volontairement, il s'est fait esclave de ces personnes, en adaptant son comportement pour pouvoir annoncer l'Évangile. Verset 21, « Avec les sans-loi, ceux qui n'avaient pas la loi de Dieu, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-loi. » Donc, il mangeait du porc de nouveau avec ces personnes-là. Ça dépendait de qui il était avec, de ce qu'il faisait, comment il vivait. Vous voyez, Paul n'a pas dit, « Moi, j'ai mon caractère et mes habitudes, et les autres n'ont qu'à s'y adapter. » Et si cela ne leur plaît pas, tant pis, c'est qui je suis. Non, il était prêt à changer, à adapter, à être flexible, à tout faire pour que les autres puissent entendre l'Évangile. On pourrait se demander, est-ce que Paul était une sorte de caméléon qui faisait des compromis sur l'essentiel alors? Ben non. Nous voyons dans ce passage que Paul est très flexible quant aux choses non essentielles, des coutumes, des habitudes, de la nourriture. Mais Paul était inflexible quant aux choses essentielles, dans deux choses en particulier. Premièrement, la moralité qui découle de l'Évangile, il ne faisait pas de compromis là-dessus. Et deuxièmement, le message de l'Évangile lui-même. Premièrement, la moralité qui découle de l'Évangile, verset 21. « Avec ceux qui sont sans loi, il était comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Donc, il ne faisait pas fi des commandements de Dieu lorsqu'il était avec les gens. Il était sous la loi du Christ, c'est-à-dire les commandements du Christ. Et pour nous, c'est le Nouveau Testament. Donc, il ne devenait pas adultère pour gagner les adultères. Il ne devenait pas menteur pour gagner les menteurs. Il ne devenait pas tricheur pour gagner les tricheurs. Ce n'était pas comme ceux qui font le baptême pour entrer dans les cercles à l'UNIF pour gagner ceux qui sont là-dedans. Non, Paul était quand même lié par la loi du Christ. Il ne faisait jamais de compromis par rapport à la sainteté dans sa vie. Et deuxièmement, par rapport au message de l'Évangile. Nous voyons plus loin que lorsque Paul veut définir l'Évangile dans le chapitre 15, pour lui ce n'est pas quelque chose de vague ou quelque chose qu'on peut juste inventer. Non, le message de l'Évangile est fixe. Ça a été déterminé par Dieu, c'est que Christ est mort pour les péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Ce message-là reste. Il essaie de partager ce même message avec tous les groupes de personnes. Mais c'est son comportement qui change, qui adapte pour pouvoir faire passer ce message. Et du coup, nous devons être inflexibles quant au message de l'Évangile, quant à l'obéissance au commandement du Nouveau Testament. Mais nous devons être très flexibles quant aux autres choses. Lorsque nous sommes avec des non-chrétiens, nos habitudes, nos traditions, nos vêtements, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Hudson Taylor. C'était un missionnaire britannique dans le 19e siècle qui était parti pour la Chine. Il voulait évangéliser les Chinois. Et beaucoup des missionnaires qui étaient avec lui voulaient préserver leur façon de vivre à l'anglaise. Donc avec les vêtements anglais, parmi les Chinois qui s'habillaient totalement à l'opposé de cela. Et Hudson Taylor avait compris ce passage, que c'était pas possible que l'Évangile passe pendant qu'il y avait une telle séparation entre les deux groupes. Les missionnaires, ils avaient l'air tellement étranges en tenue, en tenue britannique. Je me souviens, on cherchait un appartement à Bruxelles une fois. Le proprio, je téléphonais au proprio, il me demandait qu'est-ce que je fais dans la vie. Il voulait savoir. Et j'ai dit, bon, on est des missionnaires ici en Belgique. Il dit, vous habillez en tenue missionnaire? Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par cela, tenue missionnaire? Mais ils sont là, ils commençaient à s'habiller en vêtements chinois. En fait, il a coupé ses cheveux pour ressembler plus aux Chinois. Et c'était un scandale à l'époque, qu'il perd son identité britannique pour que l'Évangile passe dans la culture. Mais il avait compris ce passage, de devenir tout à tous, de devenir chinois aux chinois, pour que le message de l'Évangile passe. Paul se sacrifie pour les perdus. Imitez-moi, il dit, comme moi-même j'imite le Christ. Et je crois que ce passage nous interpelle, n'est-ce pas? Moi, j'étais fort interpellé cette semaine en préparant. Où dans notre liste de priorités se situe le salut des non-chrétiens? Si nous réfléchissons honnêtement, dans notre liste de priorités, où se situe le salut des non-chrétiens? Lorsque nous jetons un coup d'œil en arrière sur le semestre écoulé, est-ce que nous nous sommes préoccupés du salut des non-chrétiens? Ou avons-nous négligé leur salut afin de vivre pour autre chose? Ce passage nous dit que nous devons poursuivre la gloire de Dieu en nous sacrifiant pour les perdus. Mais malheureusement, trop souvent, nous ne nous préoccupons pas du fait que les non-chrétiens ne sont pas chrétiens. Et du coup, il n'y a aucun sacrifice de notre part afin qu'ils entendent ce message, le seul message qui peut les sauver. Il est très facile de voir notre péché dans ce domaine, n'est-ce pas? On est très loin de l'exemple de Paul ici. Et il est très difficile de garder la motivation, je crois, pour parler aux autres de Jésus. On est très vite découragé. Mais comment est-ce qu'on peut tenir le coup? Qu'est-ce qui va nous motiver? Je crois que les facteurs de motivation, c'est double. Premièrement, c'est la gloire de Dieu. Rappelons-nous que Paul dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Trop souvent, nous sommes centrés sur nous, sur ce que les autres vont penser de nous. Mais si nous prenons un moment pour réfléchir au Dieu qui a tout créé, le Dieu qui est glorieux, le Dieu qui règne surtout, Dieu qui enverra son Fils pour revenir un jour. si nous avons la gloire de Dieu comme notre priorité principale dans la vie, du coup, les sacrifices vont suivre pour les non-chrétiens. Donc, première motivation, la gloire de Dieu, mais aussi le sacrifice du Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Pensons à Christ qui a laissé son trône éternel, glorieux, pour venir pour nous, les gens qu'il détestait, qui ne voulaient rien avoir avec lui. Il a payé pour nos péchés, même nos péchés dans ce domaine de l'évangélisation, c'est formidable. Quelle grâce! Ne faisons pas des choses pour Jésus pour gagner sa faveur, loin de là. Nous sommes des pécheurs pardonnés par lui. Et à la lumière de cela, nous pouvons faire des sacrifices pour les perdus. Il se peut que vous n'avez pas beaucoup de connaissances non chrétiennes. Peut-être que vous ne connaissez pas des non-chrétiens. Peut-être que vous êtes un peu dans une bulle chrétienne. C'est un risque pour moi, qui ne fréquente qu'une église et un institut biblique pour la plupart du temps. Ça, c'est un risque pour moi. J'ai commencé un groupe de course à pied à Bruxelles, avec les hommes dans la cinquantaine qui courent plus vite que moi. C'est gênant, mais c'est bien. Moi, j'ai l'occasion d'être parmi les non-chrétiens et prier que le Seigneur me donne une porte ouverte pour parler de Jésus. Mais peut-être pour vous, ce serait bien de trouver des moyens par lesquels vous pouvez rencontrer les non-chrétiens. Peut-être c'est des voisins ou au sein d'une association locale ou dans un club de sport, un orchestre, une chorale, que sais-je, ou au travail même. Si nous voulons poursuivre la gloire de Dieu en nous sacrifiant pour le salut des perdus, il faut peut-être faire des sacrifices pour même rencontrer des non-chrétiens. Mais peut-être connaissons-nous des non-chrétiens déjà, des voisins, des collègues de travail, des membres de la famille, mais on se dit, mais pff, honnêtement, j'ai rien en commun avec eux. Je n'aime pas passer du temps avec eux. Leurs intérêts sont très différents des miens. Moi, j'aime l'histoire ou l'art, et eux, ils s'intéressent au jardinage et au sport. Pourquoi ne pas rafraîchir vos connaissances dans ces domaines-là, dans le but de leur parler? Et priez que les occasions se présentent pour parler de Jésus et pour les inviter au 21 pour la fête Noël ici. Où et comment pourriez-vous faire des sacrifices afin que les non-chrétiens entendent la bonne nouvelle? Pour certains, il s'agira peut-être de renoncer à une soirée tranquille à la maison pour aller voir un ami et boire un verre avec lui. Peut-être ce serait passer du temps avec un voisin ou un membre de la famille qui est difficile, mais qui a besoin du Christ. Je ne sais pas ce que ça serait pour vous. Le chrétien se sacrifie pour le salut des perdus. Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices, comme Paul, à devenir l'esclave des autres? C'est vraiment un changement d'attitude radical si nous saisissons ce principe. Notre vie ne sera jamais, plus jamais le même. Mais vivre comme ça, ça requiert beaucoup d'efforts, ça va être difficile, n'est-ce pas? Et oui, Paul ne nie pas cela. Et c'est pour cela qu'il continue dans les versets 24 à 27. Ça, c'est notre deuxième point. Paul dit que nous devons poursuivre la gloire de Dieu en nous disciplinant à la lumière de l'éternité. Donc, poursuivons la gloire de Dieu en nous disciplinant à la lumière de l'éternité. Donc, nous allons lire ces versets. Dans 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. Dans ces versets, Paul utilise les métaphores tirées du monde de l'athlétisme pour nous appeler à la persévérance dans ce sacrifice de soi pour le salut des perdus. Il nous rappelle qu'un tel sacrifice exige de la maîtrise de soi et la discipline. Verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il ne veut pas dire que seule une personne ici va franchir la ligne d'arrivée au ciel, c'est pas ça qu'il veut dire, que courir de manière à remporter le prix. Mais il dit, ce n'est pas le début de la vie chrétienne qui commence, c'est la fin. Nous devons continuer jusqu'au bout en vivant ainsi pour remporter le prix. Et qu'est-ce que cela va impliquer? Le verset 25 nous l'indique. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est la maîtrise de soi, c'est le sacrifice. Pour l'athlète, on pourrait demander au frère Borlée, c'est de se lever tôt le matin pour aller à l'entraînement. C'est pas manger ce que les autres mangent parce qu'ils ont un régime spécial. C'est ça la vie d'un athlète, des sacrifices. Et pour nous, cela veut dire que se sacrifier pour les perdus implique la maîtrise de nous-mêmes, pour nous forcer à nous dire, mais oui, j'aimerais bien me reposer ce soir, mais mon voisin ou coloc est libre, je vais plutôt passer du temps avec lui ou elle. Et qu'est-ce que nous allons remporter dans cette course chrétienne? Verset 26. Les athlètes du monde, 25, pardon, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. À l'époque de Paul, il y avait des jeux qui s'appelaient les jeux isthmiques, apparemment. C'est un peu comme les jeux olympiques. Mais à ce moment-là, les gagnants, ils recevaient des couronnes en céleri flétri. Très bien. Mais clairement périssable. Ça ne va pas durer longtemps à la maison. Mais les athlètes s'entraînent pour une couronne périssable. Même les médailles d'or, ça ne sert à pas grand-chose une fois qu'on est mort. Mais nous, dit Paul, c'est pour une couronne impérissable. La résurrection d'entre les morts, la vie éternelle, avec Dieu pour tout jamais. Plus de souffrance, de maladie, de douleur, de larmes. C'est la gloire éternelle qui nous attend. Et donc, verset 26, courant, non pas à l'aventure, sans but fixé, mais avec le but de gagner les non-chrétiens. Paul frappe, il dit, non pas comme battant l'air, mais verset 27, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Ce verset a mal été compris par ceux qui pratiquent l'autoflagellation. C'est le verset ne parle pas de ça du tout. Mais ce verset nous exhorte à nous efforcer, à nous forcer à vivre pleinement pour l'Évangile, à vivre pour le salut des non-chrétiens. Nous ne sommes pas sauvés par notre zèle, dans le domaine de l'évangélisation, ni par nos efforts dans ce domaine. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'être chrétien, si vous voulez, que de vivre pour la gloire de Dieu en se sacrifiant pour les perdus. Et pour cela, il nous faut de la maîtrise de soi, pour faire de notre être un esclave des autres, pour leur salut. Rappelons-nous, la couronne impérissable nous attend. Et on pourrait nous demander où dans notre vie avons-nous besoin d'être plus disciplinés. Peut-être nous sommes plutôt paresseux en attendant à ce que les non-chrétiens viennent vers nous au lieu d'aller à leur rencontre. Et moi, j'ai besoin de la discipline de me rappeler que ce qui compte dans une journée, ce n'est pas ce que je veux forcément, mais c'est la gloire de Dieu et le salut des autres. Quel est votre but dans la vie? Peut-être ce matin, nous avons besoin de rectifier le tir dans notre vie. Pourquoi pas prendre 5 minutes plus tard, juste pour réfléchir à comment notre vie changerait si le but dans notre vie, c'était la gloire de Dieu et le salut des autres. Imitant Paul, comme lui-même, il imite le Christ qui s'est donné lui-même pour nous, en sacrifice. Prions que nous ayons à cœur la gloire de Dieu et le salut des perdus cette semaine, pendant les fêtes de fin d'année, tout au long de notre vie, jusqu'au moment où on recevra la couronne impérissable de la vie éternelle. Prions ensemble. Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Notre Père, nous te louons pour le Seigneur Jésus-Christ, pour son sacrifice à notre place. Nous te louons parce que le christianisme n'est pas une histoire de faire le ménage dans notre vie pour gagner ta faveur. Mais c'est l'histoire, c'est un message de salut. C'est Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Il a tout abandonné pour nous sauver. Et nous voulons suivre à son exemple. Nous sommes tellement conscients du fait que notre but dans la vie est rarement ta gloire et le salut des perdus. Et nous nous repentons de cela. Nous te demandons pardon pour cela. Et nous te prions que tu puisses nous changer puissamment par ton esprit, que nous puissions vivre davantage pour ta gloire dans tous les domaines de notre vie et en cherchant le salut de beaucoup autour de nous. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.